Mesdames, messieurs, bonjour. Merci de rester avec nous, parce qu'après tout, vous avez Bernard Werber, vous avez Pierre Bordage, vous avez Jean-Claude Amaezen et vous avez Karim Djerbi, avec lesquels nous allons parler pendant une heure et demie des frontières qui peuvent ou pas exister entre la recherche scientifique et la créativité littéraire à la circonstance. Alors, existe-t-il des frontières entre la recherche scientifique et la créativité? C'est notre sujet. C'est dire que nous allons parler de l'endroit où ça se passe, c'est-à-dire de l'esprit humain. En explorant les frontières qui l'environnent et peut-être qui le compartimentent, en nous posant aussi les questions soulevées par ce que la science et la fiction nous révèlent ou nous suggèrent de ces prouesses technologiques qu'on nous annonce et qui sont susceptibles de faire sauter éventuellement certaines de ces frontières. Alors pour parler de tout ça, nous avons Jean-Claude Amaezen, qui est avec une chemise bleue électrique au quasi-milieu du dispositif. Bernard Werber, qui est à sa droite, donc à sa gauche pour vos yeux. Karim Djerbi, qui est à gauche du dispositif. Et Pierre Bordage, qu'on ne vous présente plus, et qui est à droite du dispositif. Jean-Claude Amaezen, vous êtes médecin, vous êtes chercheur, vous êtes professeur d'immunologie à l'Université de Paris Diderot. Vos recherches et vos publications depuis 20 ans concernent le rôle de la mort cellulaire programmée, ce qu'on appelle l'apoptose dans votre milieu, et qui opère d'abord en embryogenèse et dans le développement aussi de certaines maladies ou des maladies. De ce point de vue-là, vous êtes un spécialiste de la grande frontière, puisque c'est celle de la mort programmée et des cellules. On vous croise dans la plupart des comités d'éthique, vous présidez celui d'INSERM, l'Institut national de la recherche médicale. Et puis, on vous trouve aussi là où se tissent des relations entre la science, la culture et la société. À ce titre, vous animez une émission sur France Inter qui est intitulée, c'est amusant, Sur les épaules de Darwin. Il y a pas mal de choses qui pèsent sur les épaules de ce pauvre Darwin. Et pour la présenter, vous mettez en exergue une citation d'Einstein qui vaut le déplacement. Einstein dit « La plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystère ». La source de tout vrai art et de toute vraie science, le mystère. Alors je vais vous poser une question qui nécessite une réponse assez brève, comme à vos commenceaux. L'esprit, votre propre esprit en particulier, c'est toujours un mystère pour vous?
Alors, si vous voulez une réponse brève, non seulement l'esprit, je pense, mais parce que l'esprit a un côté un peu abstrait, hein, comme s'il y avait un corps et un esprit, mais... Comment émergent nos mondes intérieurs? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Comment est-ce que nous entrons en relation avec les autres? Ça me paraît un mystère extraordinairement riche et un mystère extraordinairement fécond.
Alors c'est désolant parce qu'on ne va pas réussir à aller au bout de la réponse à la question qui nous est posée. Mais enfin, on va l'explorer. Bernard Werber, moi je me demande ce que La Fontaine aurait pensé de vous. Parce que vous les avez chantés à trois reprises et vous êtes donc la cigale des fourmis. Il aurait peut-être fait quelque chose avec ça. Alors, vous êtes l'auteur que l'on sait, hein, mondialement connu, star en Corée. Vous avez sur votre site tout un pan coréen. Enfin bon, c'est impressionnant. En Corée du Sud, mais bon, Corée du Nord, ils vont s'y mettre aussi, 17e parallèle, imperméable. Ce que l'on sait un peu moins, c'est... Bon, vous êtes Toulousain, ça, on le sait en général. Vous avez été journaliste scientifique, on le sait un petit peu. Et vous êtes de formation criminologue. Ça rigole pas. Alors, vous avez des thèmes favoris. Alors, en outre les fourmis que l'on connaît, les origines de l'humanité, il y a la mort, ce qui crée des liens avec votre voisin de gauche. Alors, moi, ma question brève pour vous, une brève réponse, c'est est-ce que vous pourriez citer quelque chose que nous devrions, nous, humains, emprunter aux fourmis afin d'améliorer notre existence?
Oui, la solidarité. Que je développe, peut-être.
Oui, oui, un petit peu, quand même. Parce qu'elles sont solidaires, les fourmis.
Oui, elles sont organiquement et naturellement branchées les unes sur les autres par un système de phéromones, donc d'odeur, et elles fonctionnent comme un grand cerveau. Et nous sommes dans un système où toutes les cellules sont éclatées, même la famille, la ville, la nation, l'humanité, c'est des tas de petits fragments qui sont isolés. Et qu'on essaie de coller avec des systèmes politiques, mais que ça ne marche pas. Et chez les fourmis, qui est une espèce qui date de 130 millions d'années, alors que nous sommes là que depuis 3 millions d'années, ils sont arrivés à cette cohésion au point où on pourrait dire qu'ils sont plus proches de notre organisme. Et donc, pour une, on peut être impressionné par une fourmi qui sacrifie dans une guerre, mais c'est la même chose qu'un cheveu qui tombe de notre tête. C'est-à-dire qu'elle vit à travers l'ensemble et elle n'a pas de soucis personnels, comme nous. Elle ne veut pas accumuler des biens, elle ne veut pas de gloire.
La solidarité, donc. Mais vous savez peut-être que...
Et l'égalité, du coup.
Oui, du coup. Mais en fait, bon, ce sont des cellules de notre corps. C'est l'équivalent de cellules de notre corps, à peu près.
C'est l'équivalent des cellules de notre corps, mais c'est, je trouve que c'est extraordinaire. Comparé, le jour où nous arriverons à créer un tissu social humain comparable à notre corps, ça sera formidable.
D'accord.
Ça voudra dire qu'on peut se réaliser à travers la réussite des autres.
Encore
et on n'est pas juste dans notre réalisation
personnelle. Certaines cellules de notre corps ne sont pas toujours solidaires des autres. Il y en a qui font appel au cancer.
Mais les cancers, c'est celles qui ont envie d'être immortelles. On va dire qu'elles sont trop ambitieuses.
Voilà.
Il faut les ramener un peu plus d'humilité.
S'agissant des fourmis, il y a des scientifiques qui ont analysé leurs déplacements, l'efficacité de leurs mouvements pour effectuer des tâches. Ils en ont tiré des algorithmes qui sont utilisés pour améliorer nos systèmes logistiques. Voilà ce qu'on peut tirer des fourmis aussi.
Ça, on peut améliorer le système humain en les observant, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à les égaler parce que c'est beaucoup trop complexe. Et ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a amélioré les sociétés humaines, on les a toujours comparées aux fourmis. C'est-à-dire que les royaumes ont été comparés au royaume des fourmis, l'armée a été comparée aux fourmis. Et chaque fois qu'on avance dans la complexité, on se dit « comme les fourmis ». Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce cas.
D'accord.
Je pense qu'on n'arrivera jamais à les comprendre vraiment.
Bon.
Et en tant qu'espèce différente de la nôtre. Mais par contre, on peut les comparer en tant qu'organisme social.
Très bien. Merci Bernard Herbel.
Vous n'avez qu'à pas me poser de questions, je n'aurai pas de réponse.
D'accord. Karim Djerbi, vous êtes né en Angleterre. Vous êtes donc citoyen britannique, d'origine tunisienne. Vous êtes chargé de recherche à l'INSERM de Lyon dans l'unité dynamique cérébrale et cognition. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en génie biomédical. Vous êtes ingénieur de thèse. Et vous travaillez sur les signaux électrophysiologique du cerveau. Ça rigole pas non plus. Ces phénomènes qui... ces signaux, donc, qui produisent ou que produisent, nous verrons, les processus mentaux. Vous essayez notamment d'obtenir une cartographie dynamique en temps réel des fonctions cérébrales. Et vous bossez sur l'interaction cerveau-machine, les prouesses technologiques que j'évoquais en début. Vous êtes un petit peu l'un de ceux qui les éclairaient ou éclairaient les pistes de recherche. Alors, question brève pour vous. S'il y a des signaux électrophysiologiques, ça veut dire qu'il y a une source d'électricité physio. C'est quoi ? C'est une batterie, des accus, une dynamo, une centrale thermique ? Et ça se situe où ?
Alors, ce sont simplement les synapses de nos neurones. Donc, c'est l'activité neuronale qui est...
C'est chacun fait activité. Sa petite électricité.
Alors, il y a des impulsions électriques. Et qui dit impulsion électrique dit aussi champ électromagnétique. Donc, ça crée aussi des champs magnétiques. Donc quand on mesure l'activité cérébrale, on va essayer d'appréhender ou de mesurer l'activité électrique du cerveau alors, au niveau du scalp, ou alors l'activité magnétique. Et c'est ça qui nous permet un peu d'appréhender la dynamique temporelle. Parce que quand on mesure l'activité électrique du cerveau ou magnétique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a accès à une résolution temporelle qu'on n'en a pas, par exemple, avec l'IRM que vous connaissez. L'IRM fonctionnel ne donne pas cette précision temporelle. Donc en mesurant le champ électrique et magnétique du cerveau, on a accès à cette information.
Donc si on raisonne en termes d'interface machine-corps humain, à la limite, on peut se mettre des électrodes et s'éclairer, puisqu'on a l'électricité dans le crâne. Ça peut un jour se faire, ça. C'est-à-dire, on dit que la pensée est claire, voilà.
Oui, non, mais c'est marrant que vous dites ça, parce qu'il y a des études aujourd'hui d'optogénétique, justement, qui modifient les neurones de façon à les rendre sensibles à la lumière. Bon, c'est pas chez l'homme, bien sûr, c'est encore chez la souris, chez le rat. Mais qui permet d'illuminer les neurones et faire en sorte qu'elles s'activent ou elles se désactivent, et ça permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.
Merci Karim Djerbi. Pierre Bordage. Alors, une bonne dizaine de nouvelles et une bonne trentaine de romans après que vous ayez été vu comme un, je cite, météore arrivant dans le monde de la science-fiction française, on dit que vous êtes devenu un auteur classique qui transcende les genres et les époques. Il y a deux formules employées à votre endroit. Le Balzac de la SF. Et je pense que vous pourriez en être honoré. C'est un jeu de mots. Hein. Et la deuxième formule, c'est l'un des maîtres incontestés de l'imaginaire contemporain. Alors, bon, voilà. Vos chevilles, ça va ? Tout va bien ?
Non, ça va pas.
Ça va pas. Bon. Mais on va compter sur vous pour avoir des idées, puisque vous êtes un des maîtres de l'imaginaire. On dit aussi que vous attachez plus d'importance aux thèmes et aux situations ainsi qu'aux personnages, plutôt qu'aux descriptions techniques que vous appelez la quincaillerie futuriste serait pour vous plus un prétexte qu'un but en soi. Pourtant, c'est ce dont on a parlé là, donc vous risquez de vous ennuyer un petit peu. On va faire de la...
Je me sens un petit peu décalé.
La quincaillerie futuriste, mais je pense pas. Alors, la question à réponse brève pour vous, c'est est-ce que vous pouvez dire quand, comment et même pourquoi a surgi le thème de votre dernier opus, Le Feu de Dieu ?
Alors, on est dans le genre post-apocalyptique ou apocalyptique ?
Non, c'est quand est-ce que, c'est, quand est-ce que l'idée arrive ?
L'idée est très ancienne, donc j'ai du mal à retracer la genèse parce que l'idée...
Alors, la dernière, alors,
ma dernière idée en date.
La dernière idée en date.
Ce sera plutôt une histoire de voyage dans le temps.
D'accord.
C'est un thème que j'ai jamais abordé.
C'est pas l'idée en elle-même qui m'intéresse.
Le roman.
Non, ni le roman. C'est quand est-ce que l'idée surgit, comment elle surgit, pourquoi elle surgit. C'est dans votre baignoire, dans votre sous votre
j'ai
douche.
J'ai un bon petit fournisseur dans une petite rue sombre. Et de temps en temps, je vais lui acheter un sujet. C'est extrêmement difficile de retracer la genèse des idées parce qu'elles émergent souvent de tout un ensemble. Ça peut être en regardant une émission de télé, ça peut être en lisant un livre, ça peut être en écoutant, en lisant un article scientifique ou en écoutant des scientifiques, et de se dire, tiens, ce serait pas mal là, s'il y avait ça. Bon, je vais vous donner un exemple, c'est Les Fables de l'Impur, qui traite de la biogénétique. Et c'est le livre de Jérémy Rifkin qui s'appelle Le siècle biotech qui m'a donné l'idée de faire ce livre en me disant il parlait de la chimère qui est un thème assez peu développé finalement parce qu'on travaille plus sur autre chose que sur la chimère. Et je me suis dit poussons cette idée au bout de la chimère et voyons ce que donne un monde de chimères. Donc l'idée m'est venue comme ça de créer un monde de chimères. C'est à la suite de la lecture d'un article scientifique.
Bien, alors donc là on rentre dans le vif du sujet, l'idée. L'idée, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Alors on va faire un petit tour d'horizon puisqu'on a commencé avec vous. Jean-Claude Amaison, dans le cadre de ce que l'on sait sur l'apoptose, vous avez eu des contributions personnelles. Est-ce que vous enfin, donc des idées sur le sujet. Est-ce que vous vous souvenez de quand, comment, pourquoi ces idées sont arrivées ?
Oui, très bien. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un exemple du fait que ce qui fait surgir des idées scientifiques, ce sont des intuitions. Et que les intuitions procèdent d'émotions, de phénomènes affectifs, de rêves, d'imagination, et que c'est après qu'on le reconstruit et qu'on le traduit dans le langage qui paraît très impersonnel et très objectif de la science. Et c'est un peu, je crois, ce que vous disiez. Car les idées surgissent, parfois on sait quand elles surgissent. Parfois, on ne sait pas quand elles surgissent, on s'en aperçoit a posteriori. Dans le cas que vous évoquez, c'est quelque chose que j'ai décrit dans mon livre sur la mort cellulaire, dans la sculpture du vivant. C'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec mes travaux. C'est une maladie brutale, inattendue et soudaine qui survient chez mon père, qui était en parfaite santé. Et la confrontation soudaine à l'idée de la mort possible et de la mort prochaine m'a fait plonger pour des raisons vraiment affectives dans quelque chose qui m'intéressait et qui concernait la vie et la mort des cellules au tout début de la vie, au moment de la période de développement embryonnaire. Et dans cette période-là, la disparition prématurée, la mort, l'autodestruction des cellules n'est pas un phénomène tragique, mais au contraire un phénomène qui construit le corps de l'embryon en devenir. Et donc d'une certaine façon, il y avait une espèce de sérénité à me plonger dans cette dimension de la mort, étant confronté à une dimension de la mort qui était une dimension tragique, brutale et humaine. Et c'est à partir du moment où je me suis plongé là, où ça m'a donné une espèce de sérénité, où j'ai commencé à pouvoir parler avec mon père de sa maladie, il a pu m'en parler, qu'en même temps, ont surgi des idées dans ce domaine, et en particulier des idées sur le rôle que ces phénomènes pouvaient jouer dans la maladie. Alors, donc je crois, ce qui, pour moi, c'est un exemple personnel très intense mais très général du fait que les idées, les intuitions, les projections n'ont pas comme origine un raisonnement très souvent logique. Hein.
Donc l'idée, on la cherche pas. Alors, elle vient.
On se pose des questions.
Voilà.
Mais l'idée vient.
Voilà.
Et en général, je crois que c'est quand on se pose des questions pendant longtemps, sans forcément avoir la moindre idée
Donc le cheminement, on ne le connaît pas. Il y a encore une part de mystère, comme on le disait tout à l'heure, là, dans tout ça. Mais peut-être nous avez-vous dit qu'il y avait une nécessité. Vous aviez besoin que ces idées viennent. Non ?
Il y avait
une opportunité forte, affective.
Pour reprendre ce que vous dites, moi, je crois qu'on trouve les réponses à des questions qu'on se pose.
D'accord.
Même si on ne se les pose pas explicitement, et même si on n'a pas la moindre idée de la manière dont la réponse émergera. Et ensuite, il y a des situations qui favorisent l'émergence de quelque chose. Ce n'est pas pour ça qu'elles étaient nécessaires.
Il se trouve qu'elles étaient bienvenues.
Et si je peux terminer là-dessus, vous parliez de Darwin, c'est profondément lié à la vision même que Darwin avait, à la révolution darwinienne, de l'évolution de l'extraordinaire diversité du vivant. C'est au fond l'émergence, par hasard, dans des conditions particulières, de la nouveauté qui a petit à petit donné naissance à l'ensemble du monde qui nous entoure et à nous-mêmes. Et donc il y a cette idée que le hasard, et le hasard qui parfois est bien préparé, dans des conditions particulières.
Je vous parlais du versant nécessité.
Voilà, et quelque chose.
D'accord.
Et quelque chose qui joue un rôle essentiel.
C'est intéressant. Vous faites un parallèle, finalement, entre la création de l'univers, de la vie, etc., et ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Et pour terminer, c'est pour ça que je pense qu'il est important que la recherche soit libre au sens général.
D'accord.
Parce qu'on peut très mal préjuger à l'avance de où, comment et quand des idées intéressantes vont surgir.
Voilà. Karim Gerbi, un peu la même question pour vous. Dans le cadre des recherches auxquelles vous contribuez, vous avez eu des apports personnels, des idées. Comment est-ce qu'elles vous sont venues ?
Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup un processus de plutôt qu'une idée, plutôt que venir, je pense qu'elle se cristallise. Donc, je rejoins un petit peu l'idée de Jean-Claude Amezen, que ça germine. C'est
D'accord.
Des questions qu'on se pose peut-être sans s'en rendre compte, finalement. Et puis, un jour, il y a quelque chose qui arrive, on dit « oui, mais c'est ça ». Mais le oui, c'est ça, c'est parce qu'il y avait une période avant qui faisait que ça germinait, ça se cristallise.
Vous utilisez deux formules. Une formule qui fait appel à la cristallisation, donc au côté minéral et chimique, un côté germination qui est de la biologie.
Ouais, je pense que dans la science de la vie, nous, on travaille sur les deux. Donc c'est...
Merci. Alors Bernard Gerbert, il va falloir que vous assumiez un peu un rôle d'encyclopédiste, au moins par procuration d'Edmond Wells. Hein, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Une idée, c'est quoi ? Il faudrait que vous nous définissiez ça. Et vous avez une réponse sur votre site, dans l'interview, je dis bien l'interview, qui a été réalisée par Jean-Louis Servan-Chabert et qui figure donc sur votre site perso.
Mais c'est pas dit que je raconte la même chose parce que
je suis là pour vérifier.
je veux dire, comment viennent mes idées, peut-être. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut accumuler des informations de l'extérieur. Donc pour ça, il faut voyager, il faut s'intéresser au monde, il faut rencontrer des gens, et il faut surtout entretenir sa curiosité. J'étais journaliste scientifique, ça m'a permis de voir des laboratoires, de rencontrer des gens qui détiennent des savoirs qui ne sont pas répandus. Je les ai écoutés. Donc la première chose pour avoir des idées, c'est ouvrir...
C'est se gorger de quelque chose. Faire l'éponge.
Remplir...
Ou avoir une masse.
Voilà, faire l'éponge.
De choses.
Remplir le sac à dos d'informations. Alors moi, j'ai pas de chance, c'est que j'ai pas de mémoire. Alors tout ce que j'apprends, j'ai tendance à l'oublier. Donc j'utilise l'ordinateur, je note tout. Ce qui a donné l'encyclopédie Savoir Relatif Absolu, qui est en fait un moyen pour moi de me rappeler de tout ce que je découvre. Après, la deuxième chose, c'est de tout mélanger et de trouver des associations bizarres entre des idées qui normalement ne sont pas associées. Et pour trouver ça, j'utilise une technique, je vais dire... Tout à l'heure, je disais, il faut aller vers l'extérieur, se nourrir de l'extérieur. Et la deuxième activité consiste à se rebrancher à l'intérieur. Et se rebrancher à l'intérieur, ça veut dire aller toucher quelque chose en soi qui sait tout, mais qui a tout oublié. Tout à l'heure, j'entendais qu'on parlait de Platon. Je crois qu'il parle de ça. Et on ne fait que redécouvrir ce qu'on sait déjà. Donc, on se rebranche avec le savoir qu'on a pris à l'extérieur sur soi-même. Et là, il y a une petite chose, un petit diamant à l'intérieur qui brille, qu'on certains appellent l'inconscient, ou... notre vrai moi authentique. Et celui-là, il a une manière d'associer les choses pour que ça soit joli, que ça soit nouveau, que ça soit intelligent.
Le mot, c'est nouveau.
Oui.
Le mot fort, c'est nouveau.
Ça se muscle. Ce diamant se muscle pour qu'il associe des choses de manière de plus en plus harmonieuse.
Décidément, le diamant qui se muscle, c'est,
oui, le
c'est
diamant
du minéral
qui se muscle.
Et du biologique.
Maintenant, voilà une association, justement, qui se fait naturellement et qui n'est pas habituelle. Et c'est là que naît la science-fiction, le diamant qui se muscle. Et pour entretenir ça, je vais terminer là-dessus, je ne vais pas trop envahir. Il y a, par exemple, une technique qui consiste à noter ses rêves. Parce que les rêves, c'est quelque chose qui sont des émissions directes de ce petit diamant. Et les rêves ne sont pas influencés par le conditionnement extérieur. C'est-à-dire c'est notre vrai moi qui est créatif, qui est inventif et qui fait des associations amusantes. Et c'est pour ça que la première activité de quelqu'un qui veut se rebrancher sur lui-même consiste à noter le matin ses rêves en essayant de ne pas les oublier.
Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la source des rêves et la source des idées, c'est la même ? La source des rêves, on dit communément que c'est le subconscient.
Oui.
Donc c'est nous.
Oui.
C'est nous.
Mais au final, c'est toujours nous, hein. Quoi qu'il se passe.
Sauf que l'idée, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et pourquoi est-ce qu'on inventerait, nous, quelque chose de nouveau ?
Parce qu'on l'a associé d'une manière différente. Tous les inventeurs sont
des gens. On est inventeurs. On est tous inventeurs.
Là, j'aime bien cette phrase de Rabelais qui dit « On n'est pas des créateurs, on est juste le fil qui réunit les fleurs du bouquet ». Mais la manière dont on choisit les fleurs et la manière dont on place les fleurs dans le bouquet, c'est ça notre création. Dans mes livres, c'est pas moi qui ai inventé les fourmis, c'est pas moi qui ai inventé les anges. J'ai rien inventé. J'ai juste présenté des choses qui existent déjà d'une manière à ce que ça donne à réfléchir d'une manière nouvelle. C'est juste ça, associer différemment des choses qui existent déjà.
Alors, dans votre interview, c'est une énervation d'idées, en fait. Votre réponse, c'est une idée, c'est une pensée qui n'a jamais été pensée avant.
Une idée nouvelle, oui.
Mais c'est la définition philosophique, ça aussi. Hein. Les philosophes ont...
J'avais dû prendre la drogue pour dire des choses comme ça.
Mais vous êtes d'accord. Attendez, vous écrivez une encyclopédie dans ces cas-là.
Ça vient comme ça. Alors, j'ai appelé ça savoir relatif absolu, précisément parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'absolu, puisqu'il y a un relatif. Moi, j'aime bien... On parlait d'Einstein tout à l'heure. Einstein, il a eu cette phrase fabuleuse qui, pour moi, est la nouvelle religion, c'est tout est relatif, qui est la phrase de la tolérance et qui est la phrase de la spiritualité. Mais si tout est relatif, même la relativité est relative. Et à ce moment-là, il existe de l'absolu. Et c'est pour ça que j'ai appelé encyclopédie savoir relatif et absolu. Ah. Ça voudrait dire quelque part, il y a quelque chose d'immuable, d'éternel, qu'on pourrait appeler Dieu, qu'on pourrait appeler l'univers. Et c'est cette chose-là qui nous aide aussi à réfléchir. Entre le relatif et l'absolu, l'infiniment petit, l'infiniment grand, nos idées voguent et il en sort des œuvres d'art.
Bon, alors Pierre, Dieu, c'est un terrain sur lequel vous êtes à peu près à l'aise, ça vous intéresse, vous réfléchissez dans ces termes-là. Alors, c'est un don du ciel, dit-il dans son interview là, Bernard Werber, et il vient de dire Dieu. Alors, donc c'est ça, ou alors est-ce que c'est, il parle du rêve ? Moi, je me souviens d'une phrase d'un texte de Platon qui fait dire à Socrate, et c'est dans le Phédon, juste avant sa mort, « J'ai fait ça sur l'ordre d'un songe, d'un rêve. » Donc ça vient, ce qu'il a fait, écrire des poèmes en la circonstance, il l'a fait sur l'ordre d'un songe. C'est pas lui, c'est à l'extérieur de lui. Quelle est votre réponse ? D'où est-ce qu'elles viennent, ces idées ?
Tout à l'heure, mon voisin a parlé d'un mystère pour l'esprit, et je pense que l'esprit est un insondable mystère, et tant mieux d'ailleurs. Donc ça répond à la question. Moi, ce qui m'intéresse, je me suis rendu compte parce que j'ai fait beaucoup les choses inconsciemment. Mon premier roman, c'était un truc tout à fait inconscient. Je suis parti dans une sorte d'écriture automatique. Ça s'est avéré être de la science-fiction, un space opéra, sans savoir que j'en faisais. Enfin bon, tout s'est fait un peu spontanément. Ce qui m'a intéressé après, en prenant du recul sur tout le travail que j'ai fait, c'est que ce qui m'intéressait, c'était l'interaction. Alors, on va d'un esprit-machine, mais moi, c'est pensée-matière. C'est ça qui m'intéresse. La pensée matérialiste dit la matière a créé l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes issus d'une évolution. Après, d'ailleurs, question, qui a créé le Big Bang dans ces cas-là, quoi. On est un petit peu bloqué à ce niveau-là. Parce que si c'est une relation sans cesse de cause et d'effet, à moi, cette loi s'arrête, donc elle ne s'applique plus. Et moi, je suis parti du principe inverse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce que je cherchais à explorer, c'était comment est-ce que la pensée influence la matière ? Comment est-ce que la pensée crée la matière ? Le verbe s'est fait chair, ça m'intéresse beaucoup. Il y avait cette petite légende inuite qui disait qu'il suffisait de prononcer un mot pour que la chose apparaisse. Évidemment, si on prononçait un nom un peu bizarre, la chose apparaissant était tout à fait bizarre aussi. Ouais. Donc il fallait faire très attention à sa prononciation. Et je suis vraiment... Moi, l'essence de mon travail, c'est ça, quoi. Et évidemment, je pars de... Alors, ma pensée à moi, je ne sais pas comment elle fonctionne. J'ai eu beau essayer de l'explorer, d'en faire le tour. Je ne comprends pas trop comment ça marche, ce machin-là. Là-dedans, à l'intérieur, pourquoi les idées viennent, comment elles viennent, la pensée... J'ai absolument l'impression de ne rien inventer. Je n'invente rien. Et je pense que tout a été inventé depuis la nuit des temps. Alors, est-ce que c'est cette sorte de corpus que d'aucuns appellent la nosphère ou ce genre de concept, mais que je ne fais que suivre les traces d'auteurs qui m'ont précédé, qui ont exploré, et on se rend compte bien, on se dit, tiens, voilà, j'ai parlé des chimères tout à l'heure, super idée, ouais, les chimères, l'idée que j'ai eue et tout, et les chimères, il y en a partout dans toute la mythologie, donc...
Elles ont même un nom, il y en a une qui s'appelle Coxigru.
Donc j'ai bien conscience de ne rien inventer, mais d'explorer en permanence des facettes de l'humain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, et de voir comment l'humain interagit avec son environnement. Est-ce qu'il est le produit de son environnement ou est-ce qu'il fabrique son environnement, ce qui conduirait paradoxalement à la pensée créationniste à un moment, etc. Donc là, on est dans des terrains un petit peu mouvants, mais je pense qu'il y a une part de responsabilité de l'esprit sur la matière.
Alors, moi j'ai tendance à dire qu'on commence à avoir quelques réponses, mais qu'au fur et à mesure que ces réponses sont énoncées, le mystère s'épaissit. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une toute petite enquête là, auprès de chacun d'entre eux, avec sous l'angle de leur spécialité, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter pour la défense de qui d'ailleurs.
Non, juste à propos de ce que vous disiez, pas du tout. C'est très intéressant. Bien sûr que la pensée agit sur la matière. Mais de la même façon, et je crois que c'est à la fois aussi mystérieux, mais pas plus mystérieux, que la vie, que la matière fait émerger la vie, et que la vie ensuite agit sur la matière. Donc je crois qu'on a du mal à comprendre ce qui est dans l'émergence, que ce qui a donné naissance à quelque chose de nouveau influence ce nouveau, et que ce nouveau l'influence. Et je crois que si on reprend ce qui était dit sur les idées, une idée nouvelle, c'est pas l'apparition de quelque chose, c'est la transformation de quelque chose avant. Ça a changé. Et je crois que les mots qu'on met dessus, le fait qu'on sait qu'elle est nouvelle, on le sait a posteriori. On le sait quand on l'a d'abord ressenti. Einstein disait que lorsqu'il pensait, il ne pensait pas en mots, il ne pensait pas en signes mathématiques, il pensait en images visuelles et, disait-il, musculaires. Et c'est dans un deuxième temps, péniblement, avec difficulté, qui transformait cette idée en langage usuel et en langage mathématique.
Mais il y avait un problème, il était dyslexique, Einstein.
Peu importe, je veux dire, l'idée radicalement nouvelle ne se dit qu'après avoir été ressentie. Donc je crois que comme dans tout... Et donc le problème, ce qui a été dit, c'est comment émergent des choses transformées. Le rêve, l'oubli. Il y a un très beau passage de Rilke, du poète Rilke, qui parle de l'art, le premier vers qu'on écrit dans un poème. Et il dit, il faut avoir vu plein de choses, ce que vous disiez. Il faut avoir connu des tas de gens, des tas de pays, des tas de situations. Il faut s'en souvenir, et après, il faut les oublier. Il faut que les souvenirs se transforment dans nos muscles, dans notre sang, dans notre chair. Et il se peut, à ce moment, dit-il, qu'ils ressurgissent sous une forme nouvelle, et que ça soit le début de ce qui pour lui est nouveau, c'est-à-dire une œuvre d'art.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que vous décrivez l'apoptose. J'ai l'impression, je vais vous dire pourquoi. Quand elle est embryonnaire, donc il y a des cellules, elles sont programmées pour disparaître. Donc elles disparaissent. Et c'est vrai pour le cerveau comme pour le reste du corps. Toutes ces cellules, à un moment, elles vont se sacrifier, elles vont faire le coup de la fourmi, pour que quelque chose se déroule. Et ce quelque chose qui se déroule, c'est le corps qui se structure. Quand il y a un bug d'apoptose, vous avez un orteil de plus ou des cellules grises en plus, comme Einstein, avec des connexions qui ne sont pas structurées de la même manière. Donc ça ne fonctionne pas de la même manière. Et alors ce qui est très drôle, c'est que ce n'est pas une mort. Ce n'est pas une nécrose. La vraie mort de la cellule, c'est la nécrose. La floculation est la nécrose. Là, il y a quelque chose qui se produit. Ça se dissout, ça. Et puis ça se transforme en autre chose, qui contribue à la structuration. Ça me fait penser à rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ça vous dit quelque chose, c'est la loi de la thermodynamique de Lavoisier, ça. Oui. Et ça s'applique à énormément de choses, jusqu'à y compris aux idées dont on parlait. Oui. Alors ça vous inspire quoi, ça?
C'est une idée d'ailleurs pré-socratique, hein. Ça a été dit à peu près de la même façon. Donc c'est la redécouverte, ce qui était évoqué tout à l'heure, sous des formes nouvelles. Vous savez, l'évolution du vivant... C'est l'idée que ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, le monde vivant qui nous entoure, n'est jamais qu'une variation...
Prenez l'autre micro, parce que celui-là, il ne doit pas très bien fonctionner, monsieur.
Jamais qu'une variation sur des thèmes anciens. hein, et que la nouveauté, c'est une variation, c'est la perte de quelque chose, le gain de quelque chose, une réassociation. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Bernard Werber parlait des fourmis. Notre corps, qui évidemment est composé de cellules dont nous pensons qu'elles ne sont pas conscientes, et le degré de conscience des fourmis est sujet à interrogation, agit d'une manière, est interdépendant à un niveau qui dépasse sans doute celui des insectes sociaux et des fourmis. Pourquoi ? Parce que ce que vous décrivez, les cellules ne sont pas programmées pour mourir. Ce qu'on appelle la programmation, oui, c'est la capacité qu'elles ont à tout moment de déclencher leur autodestruction. Et donc le fait qu'à chaque moment...
Elles se détruisent telles qu'elles sont pour se recomposer d'une autre façon.
À chaque moment, elles vivent donc en sursis. Et qu'est-ce qui détermine ce sursis ? La nature des relations qu'elles ont avec au moins quelques-unes des cellules qui les entourent. Et donc c'est leurs interactions avec certaines cellules voisines qui va leur permettre, jour après jour, si elles vivent des jours, mois après mois, si elles vivent des mois, de réprimer le déclenchement de l'autodestruction. Et donc, si vous voulez, cette fragilité, le fait que pour elles, la vie tous les jours, c'est la négation d'une négation, la répression d'une autodestruction, fait que notre corps n'est pas simplement la somme des dizaines de milliers de milliards de cellules qui le composent, il est la somme des interactions qui les lient, parce que de ces interactions dépend la persistance ou la disparition de chacun des éléments.
Et il est un équilibre en mouvement, en quelque sorte.
Il est en équilibre dynamique, et paradoxalement, la complexité des corps, la complexité de nos corps, la complexité et le raffinement de notre cerveau dépend, ce qui est a priori paraît toujours paradoxal, de cette extrême fragilité de chacun des éléments qui les constituent. Là aussi, je pense, Bernard Werber parlait de solidarité, il y a quelque chose qui est intéressant de manière lointaine, c'est de penser que la complexité d'un ensemble ne dépend pas obligatoirement, ce qu'on a longtemps cru, de la solidité intrinsèque de chacun des éléments, mais peut dépendre de la fragilité et donc du besoin de l'autre de chacun des éléments qui le composent.
Bien. En tous les cas, on a une réponse déjà. Ça vient de quelque part et ça tombe à côté. C'est apoptose, c'est ça. C'est apoptose à côté, ça tombe à côté. Plus loin. On est,
donc... le nom qui a été forgé...
Oui, mais il est pas mal. Ouais, il est pas mal.
C'est la chute d'en haut, mais il faut savoir que ça a été forgé parce que la chute d'en haut, qui est d'ailleurs un pléonasme, était le terme utilisé dans la Grèce antique pour décrire la chute des feuilles en automne et la chute des pétales de fleurs. Et donc l'idée, c'est un phénomène naturel. La mort des cellules n'est pas un phénomène obligatoirement catastrophique, pathologique, anormal. C'est au contraire un phénomène profondément normal. Et donc la métaphore utilisée, c'est cette métaphore d'un phénomène normal, habituel, bon, qui est la chute des cellules.
En plus, c'est très beau, c'est très poétique.
C'est les saisons de la vie des cellules qui composent notre corps.
Et là aussi, ça se renouvelle, ça repart, ça revient. Et donc les idées nous échouent.
Non. Oui, enfin, aussi, je veux dire, non, mais ce qui émerge, je reviens à ce que je disais, ce qui émerge à la fois de la disparition d'une partie de ce qui précédait et de l'apparition de quelque chose de nouveau. Mais vous savez, pourquoi on utilise le terme de sculpture ? Parce que dans la sculpture sur bloc de pierre, la nouveauté, l'œuvre d'art, la beauté émerge non pas de ce qu'on ajoute, mais de ce qu'on retire au bloc de pierre. Et dans le vivant, une partie de la nouveauté, sans doute dans nos esprits, une partie de la nouveauté vient de ce que nous perdons et de ce que nous gagnons à partir de ce que nous avons en partie perdu.
Bon, ouf, c'est bien. Alors, Karim Gerbi, vous, votre spécialité, j'ai dit que j'enquêtais en fonction des spécialités, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les signaux électrophysiologiques. Alors, la question que je posais, c'est est-ce qu'ils produisent les phénomènes cérébraux? Ou est-ce que ce sont les phénomènes cérébraux qui produisent l'électricité? Vous savez, c'est le coup de la première poule et du premier œuf, hein, mon histoire, là. Et on va se retrouver tout le temps confronté à ça. Est-ce que vous avez une piste, une idée de réponse qui résulterait de ce que vous observez, mesuré en laboratoire? Ou est-ce que mystère?
Oui, non, je ne pourrais pas répondre à une question posée de cette façon-là. Je pense que pour nous, en tant que dans notre travail de laboratoire de tous les jours, ce qu'on va enregistrer, c'est une signature Oui. Cette activité cérébrale-là, c'est une signature, donc elle représente un processus mental pour nous. C'est la mesure, donc pour nous déjà, le temps de la mesurer, elle a déjà changé de par rapport à ce qu'elle était quand elle a été créée. Donc ça va passer par les instrumentations de mesure. Donc bon, vous voyez, donc ça change ce qui a été créé à la base. Sauf que pour nous, c'est une façon d'étudier et de regarder ce qui se passe dans le cerveau. Et, bon. Mais par rapport aux unités qui vont créer alors, ces processus mentaux, Bernard Werber tout à l'heure parlait aussi de solidarité aussi. Dans notre travail aussi de décodage d'intention, parce que dans le domaine des interfaces cerveau-machine, ce qu'on essaie de faire, c'est d'arriver à décoder l'intention motrice d'une personne pour pouvoir la transmettre à une machine, notamment dans le cas de personnes, par exemple, paraplégiques qui ont perdu la possibilité d'utiliser leurs bras pour une tâche motrice. Et alors, certaines études montrent que parfois, le décodage de l'activité ou de l'intention, on peut l'avoir au niveau de la cellule, mais que parfois, au niveau d'une population de cellules, le décodage, il est meilleur. Ce que voudrait dire, c'est qu'il y a une spécificité encore plus forte au niveau d'un groupement de cellules, ce qu'on mesure, nous, en champ local. Donc
ça contribue donc à dresser la géographie. Voilà.
Et ce qui veut dire que, pour répondre à cette question-là, il faut vraiment regarder à multi-échelle. Alors, on ne va pas avoir une réponse en regardant une échelle.
Justement, au fond, j'allais vous amener là. Si vous n'avez pas la réponse à l'heure actuelle, vous devez, vous, imaginer une méthode pour y parvenir. C'est-à-dire qu'au fond, on est entre... On va décomposer les choses. Il y a un processus cérébral qu'on peut imaginer dire il démarre à l'instant T, et il y a un phénomène électrique qui démarre à l'instant T moins 1 ou T plus 1 à voir. Et donc ce qu'il faut, c'est les dissocier, réussir à avoir la captation du phénomène cérébral séparément de la captation de l'électricité, et puis voir la différence de temps, le détail de temps. C'est correct, mon hypothèse ?
Plus ou moins. Alors, l'idée, elle est bonne ?
Elle n'est pas con. C'est déjà ça.
Non, du tout. Alors, le problème, c'est que chaque processus, on peut le redécouper, lui, en sous-processus. Donc, par exemple, dans une tâche motrice, ce que vous allez faire d'abord, c'est choisir l'action que vous voulez faire. Vous allez mettre en processus les régions qui vont préparer l'action motrice. Et après, vous allez donner la commande motrice pour effectuer le mouvement. Donc, par exemple, vous voulez étendre le bras pour pointer vers quelque chose. D'abord, vous allez choisir votre cible. Donc, ça sera le cortex préfrontal, peut-être, qui va vous aider à faire ça. Après, vous avez le cortex prémoteur, lui, qui va décider du type de mouvement. Ou alors, comment vous allez prendre votre tasse, l'ouverture de la main pour y aller. Et après, il y a le cortex moteur primaire, lui, qui va donner le dernier ordre moteur aux muscles qui passent donc par la moelle épinière, ainsi de suite. Donc nous, quand on mesure l'activité cérébrale, on va regarder par exemple en EEG ou en magnétoencéphalographie. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est différents processus dans le temps. Et donc on peut jouer avec ça, on peut faire des paradigmes expérimentaux qui sont assez intéressants, parce qu'on va demander à un sujet de préparer un mouvement, mais d'attendre un deuxième signal pour l'effectuer, et ça nous permet de dissocier ces différentes parties. Donc c'est des sous-processus qui font partie d'une action globale.
Okay. Au fond, ce qui nous permettrait peut-être de mieux comprendre encore, c'est qu'est-ce que vous appelez, vous, processus mental ? Parce que nous, on va penser l'idée, l'émotion qui naît d'une lecture, que sais-je, et vous dites, c'est désigné un point, c'est déjà un processus mental. C'est ça.
Alors, pour un processus mental, on peut le définir, nous aussi, à différents niveaux, mais ça sera, par exemple, une tâche de mémoire, mémorisation de stimuli visuels ou auditifs, par exemple, ou alors ça pourrait être tout simplement le fait de choisir une action, processus décisionnel, ou alors le fait d'accomplir ou de préparer une action, ou alors le traitement visuel d'une information. On peut faire une expérience où vous allez voir différents stimuli à une vitesse assez rapide. On va aller chercher dans le cerveau pour voir est-ce qu'on a réussi à enregistrer toutes ces informations là, est-ce qu'il y a des stimuli qu'on a ratés ou pas. Et donc, ça permet de découper le traitement visuel aussi en sous-morceaux. Et voilà. Bon, malheureusement, le cerveau est assez complexe et je ne vais pas pouvoir donner une réponse.
Donc, en fait, il est possible de distinguer le processus mental en temps et l'apparition dans le temps du processus mental, l'apparition dans le temps du phénomène électrophysiologique.
Nous, on a toujours besoin de le définir parce que c'est un travail plus de science exacte. Donc, du moment où on définit pour une étude... Qu'est-ce qui est le processus mental ? On va essayer de, avec les mesures qu'on a, donc on prend en compte qu'est-ce qu'on peut mesurer pour que la définition qu'on donne ait un sens. Et après, on va par A plus B montrer est-ce qu'on a trouvé une signature neuronale qui correspond ou pas.
D'accord. Donc formidable. On va avoir un jour le séquençage dans le temps du signal électrique et du processus mental. Mais Qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va nous donner? Faut que vous ayez le bon micro, là, oui. Il ne fonctionne pas, le micro. Voilà.
Quand vous posez la question, c'est intéressant, qu'est-ce qu'un processus mental? Quand je vois une couleur, quand vous voyez une couleur,
oui,
c'est un processus mental. À l'intérieur de votre crâne, il y a une obscurité totale. Et donc, cette couleur, elle n'existe pas. Elle est créée par votre cerveau en réponse à des longueurs d'ondes lumineuses qui s'impriment sur la rétine et qui vont cheminer sous forme de signal électrique et dans les synapses de signaux chimiques jusqu'à ce que vous créiez de la couleur.
D'accord.
En gros, la couleur n'existe pas en tant que telle. C'est un phénomène mental qui est tellement banal pour nous voyants que nous pensons qu'il transcrit la réalité alors qu'en fait, il l'invente. De la même façon, je vous entends parler. En fait, ce que vous émettez, c'est des vibrations dans l'air. Et moi, je transforme ça en langage et en parole. Je l'invente. Donc, des choses aussi simples que vous entendre ou vous voir sont des processus mentaux d'une extraordinaire complexité.
D'accord.
Si je peux ajouter une dernière chose. Parce que vous parlez de temporalité, donc de chronologie. Mmh. Est-ce qu'on peut séquencer dans le temps? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, notamment dans le laboratoire à Lyon où on travaille, on s'intéresse beaucoup aussi à la synchronisation entre régions. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas avoir...
Entre régions du cerveau.
Donc, entre régions du cerveau, oui. En France aussi.
Oui, oui.
Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir deux, trois, plus de régions qui vont créer un réseau qui, pour élucider une tâche et pour arriver à mener à bien ce processus global, on va avoir une synchronisation entre le cortex visuel, par exemple, et le cortex moteur dans une tâche visuomotrice. Quand vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes en train de conduire et vous devez prendre en compte quelqu'un qui s'apprête à traverser devant vous, alors le feu qui va changer de couleur, vous avez une information visuelle qui rentre dans le cortex visuel, qui doit être procédée et qui doit communiquer à votre cortex moteur, de préparer aussi, de freiner. Donc il y a une interaction et elle n'est pas nécessairement chronologique une par une. On peut avoir un réseau qui se met en place. Quand vous êtes en train, par exemple, de jouer à un jeu vidéo, vous êtes constamment en train d'analyser une information visuelle et en conséquence d'adapter votre output moteur. Donc ce qui veut dire, c'est que vous avez tout un réseau qui est synchronisé et non seulement une région à l'instant T suivie d'une autre région à l'instant T plus 1. C'est plus un fonctionnement en réseau et en connectivité.
Et c'est intéressant.
Alors,
si je peux aller dans ce sens.
Vite, parce que je passe à Bernard.
Juste un point, c'est aussi, vous savez, quand je disais qu'une idée, on ne sait qu'on l'a eue qu'après l'avoir eue, il y a toute une série de travaux qui montre que la conscience est toujours rétrospective. C'est-à-dire, quand je sais que je vois, quand je sais que j'entends, quand je sais que j'ai décidé, c'est toujours quelques centièmes, quelques dixièmes de seconde avant que des phénomènes ne se soient produits. Donc je crois, d'une certaine façon, le fait de penser que nous sommes toujours en léger décalage, parce que ce que nous appelons la conscience, ou même des gestes harmonieux, faire de la bicyclette sans tomber, c'est toujours une reconstruction à partir d'une somme d'éléments élémentaires.
Les équilibres précaires qui sont toujours en mouvement.
Voilà, et quand
on
vous voit, c'est toujours le temps qu'a mis la lumière pour entraîner la stimulation. Il y a un décalage. Il est petit, c'est pour ça qu'on ne le sait pas. Mais on le sait quand la foudre tombe. Quand la foudre tombe, nous la voyons instantanément presque tomber parce que la vitesse va très vite de la lumière. Mais nous l'entendons beaucoup plus tard parce que le son nous parvient plus tard. Et c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit qu'on ne réalise pas les choses de manière simultanée. Et donc, dans notre vie quotidienne aussi, ce n'est pas simultané, mais c'est tellement rapide qu'on ne sait pas.
C'est vrai pour tout ce qui concerne ces processus mentaux qui nous viennent de l'extérieur. Qui sont liés à des sensations, la vue, l'ouïe, l'odorat, que sais-je, enfin, bon, tout ça. Mais les idées, elles ne viennent pas d'une stimulation extérieure. Il y a quelque chose qui se passe dans l'obscurité de notre crâne, comme vous le disiez si bien. C'est autre chose, c'est un autre...
Mais à partir du moment où elles ne se passent pas, dirait un neurobiologiste, au même endroit, au même moment, mais qu'elles représentent aussi une sommation, une intégration et une transformation de l'activité de différentes régions du cerveau et du corps, et de la mémoire et toute une série de phénomènes, elles ne sont pas simultanées non plus. Et donc, quand je sais que j'ai une intuition, que j'ai une idée, que j'ai quelque chose dont je me rappelle, c'est toujours un peu après que quelque chose ait commencé qui va donner ce résultat.
Bon, alors, mon idée de temps est en train de passer à la trappe, là.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le cerveau, il fait aussi une sorte de compensation aussi pour ça. Donc ils développent une sorte de modèle interne donc de ce qu'on attend d'une action. Donc quand on entreprend une action aussi, on a un calcul, on a une idée de ce qu'on va en résulter. Donc ça devient un modèle. Et après, en fonction de ce qui s'est passé en réalité correspond ou non, ou même pendant l'action, on va pouvoir se rattraper. Donc c'est pour ça que je parle d'un modèle de compensation, parce qu'il y a vraiment un modèle interne donc, de notre représentation du monde que nous créons même avant que les choses se passent.
D'accord.
Donc c'est là aussi où nous on rattrape le fait que des choses qui aient lieu avant que nous on s'en rende compte.
Alors, dernière question pour vous, puis après je passe à Bernard Werber. Ces signaux électrophysiologiques, est-ce qu'ils sont tout le temps les mêmes ou est-ce qu'on peut discerner des signaux différents en nature ? Ou c'est tout le temps les mêmes ?
Non, c'est jamais les mêmes.
C'est jamais les mêmes.
C'est presque jamais les mêmes. Parce que...
Alors ils sont plus gros, plus... Qu'est-ce qu'ils ont de différent ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de comment on va les mesurer. Est-ce qu'on va les mesurer avec des outils qui vont aller regarder l'activité électrique ou magnétique du cerveau ? Est-ce qu'on va regarder la consommation d'oxygène, le flux du sang ? Est-ce qu'on va faire la même... Si on fait une même expérience avec quelqu'un le matin et l'après-midi, on risque d'avoir des signaux qui sont différents aussi. Il y a l'effet de la fatigue, de la tension. Tout ce qu'on fait, tout notre vécu aussi, que ce soit même sur l'espace de quelques secondes, peut moduler ces signaux-là. Donc pour vous donner un exemple, si on veut étudier quelque chose d'assez simple, qui est par exemple... la réponse de notre cerveau à une information visuelle, flashée. En fait, ce qu'on doit faire la majorité du temps, c'est de refaire ça une dizaine de fois, une centaine de fois même, et après moyenner toutes les réponses pour sortir qu'est-ce qui est commun à tout, parce que dans une seule observation, on ne va pas pouvoir... Alors, il y a quelques années, on appelait encore ça le bruit du cerveau. Parce qu'il y a du bruit, il y a des signaux qui vont dans tous les sens.
Mais si les signaux électriques font du bruit maintenant...
Mais maintenant, voilà.
Ben oui.
Mais le bruit du cerveau...
Peut-être que les bruits font les signaux électriques aussi, mais bon...
Après le...
On s'égare là. C'est ça, le mystère s'épaissit. Alors, on vous a laissé le temps de vous charger en information, etc. Pas le temps de l'oublier. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre là ? D'abord, et puis après, je verrai la question qui vous intéresse, vous.
Qu'est-ce que ça m'inspire ? Je suis à l'école, moi, j'apprends des choses. C'est parce que je suis de ce côté.
J'entends bien.
Il n'y a pas ceux-là qui apprennent et ceux-là qui tiennent le savoir. On est tous en train d'apprendre.
C'est formidable.
J'apprends de mes voisins. L'apoptose, c'est vraiment intéressant, parce que ce mot, j'avais mis dans l'encyclopédie, que j'avais oublié, mais ça peut aller loin, l'application de ce système. Ce qui veut dire qu'il y a un moment où le sacrifice ou la mort sont nécessaires à la vie. Ça, c'est un vrai concept de base de science-fiction, parce que c'est immoral. Et,
immoral ou amoral ?
Ça a l'air et immoral et amoral, donc c'est une bonne base pour faire de la science-fiction, parce que ça va être à nous d'arriver à donner du sens à quelque chose qui nous heurte d'un premier temps, qui est de la mort naît la vie, et s'il n'y a pas de mort, la vie est compromise.
Une petite inclusion d'Amazon dedans.
Attendez, c'est la notion de paradoxe. Tout ce qui est paradoxe, voilà, une idée de science-fiction, parce que quand même notre domaine, à Pierre et à moi, c'est la science-fiction, c'est pas la science, c'est en utilisant du réel, montrer que ce réel fonctionne à l'envers et que si on veut vraiment aller au bout de la connaissance de ce réel, on tombe sur l'expérience contraire. Pour préserver la vie, on peut avoir intérêt à développer la mort, par exemple, pour nos personnages. Et plus on touche à des notions qui inventent non pas de nouvelles technologies, mais de nouvelles morales, plus on ouvre, je crois, des prises de conscience chez le lecteur. Mais notre fonction d'auteur n'est pas de moraliser, c'est de faire se poser des questions morales au lecteur.
C'est déclencher du signal électrophysiologique.
Voilà. Mais la bonne science-fiction est la science-fiction qui n'agit pas sur les technologies, mais qui agit sur la prise de conscience de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal.
Voilà. Votre petite inclusion. Oui,
je pense que c'est la question que pose Bernard Werber en termes de morale est essentielle. Parce que les cellules ne sont pas conscientes. Et donc, de la même façon que le fait que des étoiles explosent et qu'on pense que cette explosion des étoiles joue un rôle important dans l'ensemencement de l'univers, la disparition d'une cellule est un phénomène du vivant. Il n'a pas de signification morale dans la mesure où nous ne prêtons pas de conscience à une cellule. Le grand piège, c'est d'essayer à partir de ce que nous comprenons de ce qui nous fait et de l'univers, que nous essayons d'en tirer des règles morales. Darwin avait remarqué que la mort, l'extinction, la disparition avaient joué un rôle extraordinairement puissant dans l'évolution du vivant. il le vivait comme une explication scientifique et comme un scandale moral pour tous les êtres capables de conscience, les animaux et les humains. Et il en avait tiré l'idée que non seulement il comprenait mieux le monde et comment il était fait, mais qu'il fallait compenser ça par un surcroît d'attention, par un surcroît de soucis pour l'autre, et en particulier l'autre humain. Et la règle morale qu'il avait tirée de ce phénomène qui disait que la mort était un outil de construction du vivant, c'était justement de construire une société fondée sur l'altruisme. Et pas sur, je reviens, et pas, il y a des formes de solidarité dans le vivant, dans lequel le sacrifice est toujours des mêmes au profit des autres. Et donc il y a dans la solidarité et l'altruisme, il ne faut pas confondre ce qui est ce que chacun fait pour l'autre, et des sociétés, y compris des sociétés humaines, dans lesquelles ceux qui se sacrifient sont toujours les mêmes au profit des autres. Donc c'est, je veux dire, dès qu'on raisonne en termes de morale, ça devient plus intéressant et plus complexe.
On est sur un terrain qui est très sensible et passionnant, parce que pas politiquement correct. Mais j'aimerais, j'ai utilisé le mot solidarité, il a utilisé le mot d'altruisme, c'est pas exactement les mêmes notions,
non.
Mais je voudrais utiliser un troisième mot qui est en train maintenant d'être à la mode, mais qui me semble très très puissant, c'est empathie. L'empathie, c'est pas l'altruisme, c'est juste qu'on perçoit la douleur des autres. Après, ça veut pas dire qu'on va l'aider, mais on la perçoit. Et je pense que les fourmis, si elles sont plus fortes que nous dans leur société, parce qu'elles perçoivent la douleur des autres, elles ne supportent pas. Une fourmi ne supporterait pas d'avoir à côté d'elle une fourmi qui a faim. Naturellement, elle va la nourrir, mais pour elle, elle ne va pas se dire « je suis super sympa, je nourris » ou « je fais partie d'une association caritative, je nourris mon voisin ». Pour elle, c'est une évidence. L'autre c'est, a faim,
c'est,
je le nourris.
Et ça, c'est de l'empathie. La sympathie, c'est la souffrance avec.
C'est de l'empathie qui est rentrée dans l'organisme. Et c'est tellement rentré dans l'organisme qu'elles sont équipées d'un truc qui s'appelle le jabot social. C'est-à-dire qu'elles ont un estomac pour se nourrir elles-mêmes et un estomac pour nourrir les autres.
Génial.
C'est comme si nous avions une sorte de sac pour donner aux mendiants ou à ceux qui ont faim, et on leur vomirait dans la bouche chaque fois qu'ils nous disent qu'ils ont faim. Ça correspondrait à ça,
oui,
le c'est... niveau d'empathie intégrée, bon, sans le petit arrière-goût, hein. Mais
bon.
le niveau d'empathie intégrée à l'organisme sur 130 millions d'années, ça donne l'organisme à créer quelque chose, l'organe de société. Donc, voilà. Et moi, je veux bien que mes amis, mes voisins rebondissent sur la notion d'empathie, parce que l'empathie, c'est l'enjeu du troisième millénaire, c'est est-ce qu'on perçoit ce qui se passe autour de nous à fond, ou est-ce qu'on est juste dans « je sauve ma pomme et j'essaie de survivre le mieux possible dans le confort le plus grand ».
Alors,
j'ai une empathie avec mon voisin proche.
Je vous conseille pas d'avoir faim à côté de Bernard Werber.
Alors, c'est fondamental ce que dit Bernard Werber.
Oui.
Darwin, dans son livre sur l'origine de l'homme, la généalogie de l'homme, dit que pour lui, ce qui a conduit à l'émergence de l'homme, c'est, il appelle pas ça l'empathie, mais la sympathie, parce que le terme d'empathie sera créé au début du XXe siècle, c'est la sympathie. C'est le souci des parents pour leurs enfants. C'est le souci pour les faibles dans des communautés animales. Et il dit qu'à partir du moment où ça a pris un degré suffisamment important, ça a constitué l'espèce humaine. Ce qui est intéressant pour Darwin, c'est qu'il dit, comme les éthologues modernes, comme Frans de Waal aujourd'hui, comme des primatologues, il dit ce qu'il y a au cœur de l'origine et de l'humanité et de son humanité, c'est pas nos capacités abstraites de symbolisation, c'est notre capacité à ressentir ce que sent l'autre. Une fois que c'est apparu, les capacités abstraites, ça vient en plus. Et donc pour lui, c'était vraiment au cœur. Et quand je parlais de morale, c'était traduit en termes moraux, c'était ce qu'il appelait la règle d'or, qui était ce que tu veux que d'autres te fassent, fais-le aux autres.
Bon, alors, on essayait avec eux de savoir d'où venaient les idées. On voit aussi d'où viennent les sentiments, d'où viennent les morales. Enfin bon, mais ça, le mystère s'épaissit toujours. Je trouve ça assez étonnant. Alors, Bernard Werber, moi, il y a quelque chose dont vous avez parlé, parce que ça vous est arrivé, l'écriture automatique qu'a évoqué déjà Pierre. L'écriture automatique, qu'est-ce que c'est que l'écriture automatique? C'est un lâcher-prise, c'est une espèce d'état d'hypnose au sens strict du truc. C'est presque un état d'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire propice aux métaphores. C'est quoi? Et est-ce qu'il y a plus d'idées qui arrivent là?
Alors, je pense que Pierre aussi sera très intéressant sur cette question, mais c'est tout simplement, il y a un moment où on oublie la technique, c'est-à-dire on oublie, dans l'écriture, là je parle du métier d'auteur, on oublie la technique d'écriture, on oublie le mouvement des doigts. En fait, on oublie entièrement et l'ordinateur et soi. et on est juste dans le film avec les personnages en train de vivre des émotions. Mais ça, c'est un état
d'empathie.
D'empathie, mais non, là je vais le rapprocher d'une autre notion qui est le chamanisme. C'est-à-dire on est en état de transe parce qu'à force de pratiquer ce métier, on le pratique sans aucun effort. Enfin, je pense que Pierre, vu qu'il a fait aussi beaucoup de romans, c'est-à-dire qu'on est dans un état où le temps et l'espace n'existent plus, on est presque en méditation, il n'y a qu'un petit plaisir diffus qui monte, et c'est que dans cet état-là que, pour ma part, j'ai l'impression que je fais du bon boulot. Si je commence à réfléchir de manière intellectuelle, si je commence à me dire, pourvu que j'écrive bien ou pourvu que ça plaise, qui sont deux notions qui coupent tous les effets, j'écris normalement. Mais si je veux vraiment faire quelque chose d'un peu plus intéressant, il faut que j'arrive à me mettre dans cet état-là, et je vais préciser, sans aucun produit et dans, sans aucun doping.
Voilà. Mais alors, c'est formidable ce que vous nous dites.
Je pense que j'ai essayé avec du doping, ça marche encore mieux, mais c'est précisément parce que ça marche mieux qu'il ne faut pas
faut
le faire.
Il ne faut pas le faire. Dangereux.
Mais, oui, et puis ça crée une accoutumance. Maintenant, et notamment mon maître en écriture qui est Philippe Yadic, lui a testé plein de produits, à la fin il n'arrivait plus à écrire sans ces produits. Ce que je sais, c'est qu'il y a des portes qui s'ouvrent, et il y a un moment où l'écriture devient... Alors, le mot écriture automatique est tellement associé à des gens qui se mettent en contact avec des anges. Et des... Moi je dirais que ça devient naturel. Le mot naturel étant un des mots que j'adore le plus, c'est-à-dire c'est naturel comme une abeille qui fait du miel. Quand l'abeille fait du miel, elle se dit pas pourvu que ce pourvu que ce miel plaise aux copines, ouais, et pourvu que je le réussisse et pourvu que je ne rate pas mon miel. Elle fait du miel. Et bien, je crois qu'un bon auteur, il y a un moment, il écrit naturellement. Alors on peut dire écriture automatique comme l'abeille fait du miel automatique, mais
là vous faites le miel des lecteurs.
Voilà. Mais il n'y a plus d'effort. Je me rappelle quand j'étais journaliste, je donne juste ce petit détail. Il y avait un collègue quand il écrivait, il était comme ça. Et j'arrête, je lui dis, mais attends, faire des articles, ça a l'air de te faire souffrir. Il me fait, oh oui, tu peux pas savoir comme je souffre. Je fais, pourquoi tu fais ce métier? Il me dit, plus je souffre, plus ce que j'écris est intéressant. Je dis, j'ai pas l'impression, parce que plus tu souffres, plus le lecteur va souffrir en retour. Et c'est ce qui se passait. J'ai lu les articles de ce journaliste, c'était de la souffrance. Il y a un moment, enfin, moi je prône en tout cas, je pense Pierre aussi, le livre en tant que divertissement est source de plaisir. Si un livre est une source de stress et d'angoisse, c'est un autre trip, c'est un trip masochiste, c'est un trip à la mode à Paris, mais personnellement, je ne crois pas que ça soit la littérature du futur.
Bon, alors il vient de nous expliquer qu'en fait, il bosse très bien quand il ne bosse pas. C'est ça ?
Oui, mais alors, pousser plus loin. Je pense que dans tous les métiers, il existe la même chose. J'ai parlé tout à l'heure de la musique, mais je pense que même en science, même dans la recherche,
en sport,
il y a un moment où on est porté parce qu'on est sur son bon chemin. Et quand on est sur son chemin, il n'y a pas d'effort. Là où il y a des efforts, c'est quand on est à côté, on est embourbé, on est dans le fossé, on est à contresens, et là on peine et on souffre. Et faire attention à son plaisir est une manière d'être sûr d'être dans de l'art de qualité. Voilà, je dis plus rien.
Alors, Pierre, écriture automatique, votre retour d'expérience à vous. Alors, pas plus de fumettes que... Pas non. Plus de substances à la Philippe Cadic, bon, voilà.
Aucune. Je prendrai un autre terme pour exprimer ce que dit Bernard, c'est grâce. Il y a des moments de grâce dans l'écriture. C'est-à-dire des moments où tout coule tout seul, où on est en harmonie avec sa propre musique intérieure. Mais ces moments-là, pour moi, sont très rares dans un roman, parce que le roman est un travail de construction. Et dans un travail de construction, on traverse toutes les phases. La souffrance, je la traverse aussi. Le doute, la difficulté, et des moments d'accélération. Et j'accepte tout cela, parce que tout cela vient avec le roman, avec la construction du roman. Par ailleurs, toutes les réflexions de mes camarades m'ont inspiré pas mal de réflexions aussi sur le fait que, avec l'apport scientifique, on va toujours vers le plus petit, vers l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on essaie de décortiquer de plus en plus l'être humain, au risque d'oublier sa globalité. Je pense que notre façon d'appréhender l'univers, je vais peut-être jouer le chien d'Angel King, mais c'est un petit peu volontaire, notre perception de l'univers nous entraîne vers l'état machinal, de plus en plus, vers une post-humanité qui sera autant machine qu'humaine, voire plus machine qu'humaine. Là, on a oublié une perception de l'univers qui est une perception globale. Bernard parlait de chaman. Je pense que le chaman, c'est quelqu'un qui a une perception globale de l'univers. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à décortiquer ou à expliquer l'univers. C'est quelqu'un qui ressent.
Qui est immergé dedans.
Il est en symbiose avec l'univers. Il est un avec l'univers. Et à ce titre-là, il n'y a plus de questions à se poser. Moi, j'étais interpellé par un phénomène qui m'a beaucoup plus intéressé que toutes les avancées scientifiques. Il y a des gens sur cette terre qui ne mangent pas. Or, la science nous dit, si on ne mange pas,
petit Bouddha.
Non, je ne parle pas du petit Bouddha. Je parle des gens ici en France, des gens que je connais, etc. Il y a des gens qui se contentent de nourriture pranique, c'est-à-dire ils ne mangent que de l'air. Ce qui est impossible. La science
de l'air, aïr.
Aïr. Ce que la science nous dit, c'est carrément impossible. Si on ne mange pas, on meurt. Or, c'est faux, puisque ces gens, qui ne sont pas des mystiques ou des illuminés ou quoi que ce soit, vivent très bien et en meilleure santé, généralement, sans manger. Et j'en connais, des gens qui ont expérimenté ça. Donc je me dis que finalement, peut-être qu'on part sur des pistes, mais complètement fausses.
Ça, c'est des gens qui font ça pour pas qu'on leur vomisse dessus, à mon avis.
En fait, toute notre structuration sociale est faite sur ces nécessités-là, qui sont finalement des conditionnements. Et mon voisin cite souvent Darwin, et moi je trouve que Darwin, c'est le prince du conditionnement. Et je pense que le conditionnement, c'est l'ennemi de la pensée. C'est-à-dire que plus... Et j'ai l'impression que notre société, par son matérialisme, nous met dans des boîtes de plus en plus étroites, de plus en plus petite, et oui, je provoque un peu, sur vous. mais en réalité, je suis pas loin de passer ça quand même. Et que finalement, on perd la perception globale des choses, et que c'est dans la perception globale de l'univers, comme le chaman dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a la vraie solution. Vous voyez, pour la guérison, là, on en arrive à la machine, c'est-à-dire c'est une prothèse va servir à quelqu'un pour accomplir des gestes qu'il ne peut plus accomplir. Mais ce n'est c'est une béquille. Je veux dire, ça a été inventé avec les pirates lorsqu'ils mettaient une jambe de bois pour remplacer une jambe perdue. C'est exactement la même démarche. Et je pense qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons d'appréhender la vie, mais qui sortent complètement des conditionnements.
Alors, on est devant un mystère, l'histoire des gens qui se nourrissent d'air.
Oui, alors ça, c'est...
Vous voulez pas qu'on en cause deux secondes
Personne ne m'entend parler.
Non, mais j'en sais rien.
Attendez. Ça remettait tellement de choses en cause
Les scientifiques, ils n'aiment pas ça.
Si on savait qu'on pouvait résoudre les problèmes d'un milliard de personnes qui souffrent des maladies de la faim dans le monde en leur disant de respirer de l'air, on serait extrêmement heureux. Malheureusement, pour la majorité des gens ou la totalité des gens...
Il n'y a pas de scientifiques qui étudient ce genre de cas.
De la faim dans le monde. Et vous savez que les enfants qu'on ne nourrit pas à la naissance, malheureusement, dans la plupart des cas, et je ne sais pas quelle vision de l'univers ils ont, ils ne se portent pas bien. Donc, je ne sais pas, il y a toujours des choses exceptionnelles qui peuvent exister. Je veux dire, et même la science a toujours été confrontée à ce qu'elle croyait au départ exceptionnel. Maintenant, je veux dire...
Le mouton à cinq pattes, voilà, des choses comme
que
ça.
Ces phénomènes...
Une erreur d'apoptose.
Non, que ces phénomènes existent. Mais enfin, je veux dire...
Je
ne connais pas d'exemple dans le monde vivant de ce type. Hein. Alors, ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas. Mais bon. Ce que je voulais dire, ce qui est important... Il est évident que l'utilisation de machines, de prothèses, d'aides, peut à la fois être quelque chose qui libère, je veux dire, c'est quelque chose qui vous permet de vivre de manière plus ouverte, plus libre, plus autonome, qui vous ouvre le champ des possibles, ou ça peut être quelque chose qui vous a servi. Et le grand problème, c'est ce que vous disiez sur la dépendance. Quand est-ce que quelque chose vous aide ou quand est-ce que quelque chose vous a servi ? Et la dépendance aux substances, c'est exactement ça. On a l'impression que ça rend service.
Et quand on est devenu esclave, ça a servi.
Donc je crois qu'il y a vraiment une dialectique extrêmement importante à penser dans ce sens. Maintenant, je crois que c'est pas du tout quelque chose qui vient du monde moderne. L'esclavage consistait à utiliser des machines humaines. On considérait que certaines personnes étaient l'équivalent de machines qu'on utilisait au profit des autres. Et pour revenir, quand vous dites, je ne veux pas faire un panégyrique de Darwin, mais quand je disais que la réponse à sa découverte, je dirais, du caractère tragique de l'évolution du vivant était une réponse morale, Darwin a été un des rares, parce que ce n'était pas extrêmement fréquent à l'époque, à lutter contre l'esclavage, à lutter contre les ravages de la colonisation, et à lutter contre le racisme qui était en train de prendre les couleurs scientifiques qu'il allait connaître au niveau du XXe siècle. Donc, loin d'une idée du conditionnement, il pensait que notre réponse à ce que nous découvrions des mondes et de nous-mêmes, c'était encore une fois une solidarité sous forme de réciprocité, de non-instrumentalisation. Alors, c'est vrai que dans les instruments, mais ça a été pensé par Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave. Quand est-ce que le maître devient l'esclave de son esclave ? Donc il y a toujours eu cette idée, y compris dans sa forme la plus violente humaine, qui était l'esclavage, du fait que ce qu'on utilise comme un instrument peut aussi devenir une source d'asservissement. Et je pense que plus nous produisons des outils techniques, plus nous produisons des choses qui peuvent nous aider, et plus cette réflexion de comment les utiliser pour que ça nous libère collectivement et pas pour que ça nous asservisse, devient une réflexion importante.
Alors, déjà, il a chaussé les bottes.
Il faudrait lire
les chaussures de marche du président du comité éthique.
Le livre de Jean-Michel Truong, qui s'appelle « Totalement inhumaine » et qui est très éclairant. Très, très éclairant sur le processus machinal et la post-humanité qui, dans notre logique, va aboutir forcément à un homme machinal.
Alors, on a abordé en tous les cas avec vous, et là, il faut que je reprenne mes choses en main parce que le temps s'écoule. On a abordé avec vous la dernière partie de notre... des raisons pour lesquelles on est sur cette scène pour parler, c'est au fond on est à Utopia, on est en veille de ce qui se passe pour voir ce qui va être bénéfique ou ce qui est horreur à condamner, encore que vous nous mettiez dans l'embarras en nous disant finalement quelque chose qui est amoral, qui est un scandale, est un bienfait biologique. Hein, c'est l'idée, grosso modo, qui sortait de ce que vous disiez tout à l'heure de Darwin. C'est-à-dire que la biodiversité qui disparaît, c'est bon pour la biodiversité à venir.
Le fait que nous soyons mortels,
voilà.
et que notre espérance de vie est limitée, le fait que nous soyons sujets à des maladies, le fait que nous soyons sujets à des catastrophes naturelles,
c'est scandaleux.
Est-ce que nous pouvons faire, ce n'est pas de le rendre moral, c'est-à-dire de défaire le passé qui nous a donné naissance, de demander à la Terre d'arrêter d'avoir des dérives de plaques tectoniques et de faire des tremblements de terre.
Ce qui est emmerdant.
Ce que nous pouvons essayer, c'est sur ce fond qui est blessant, qui est dangereux, qui
progresse
des problèmes, c'est d'avoir un comportement qui fait que nous puissions vivre la vie collectivement
oui.
la plus heureuse
bon, alors,
ensemble.
Décidément, c'est le président du comité d'éthique qui est en train de fonctionner. Parfait. Mais je vais revenir à vous dans ces termes-là. Merci beaucoup, monsieur Meisen. Alors, Bernard Werber,
je peux juste rajouter...
Non, on ne va pas y arriver, là.
Juste un mot.
Il y a
aujourd'hui... La solidarité, c'est quoi? On a les moyens techniques, on les utilise ou pas. Il y a aujourd'hui 2 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans qui, chaque année, meurent de pneumonie, que nous avons les moyens, collectivement, l'Organisation mondiale de la santé le dit depuis des années, de traiter et de prévenir. Et donc, voilà de la souffrance dont on peut dire qu'elle est causée par des germes et des microbes, mais une souffrance que nous pourrions soulager et empêcher. Et donc, la question n'est pas est-ce que ce sont des microbes qui la causent et est-ce que c'est immoral, c'est qu'est-ce que nous pouvons collectivement, en tant qu'êtres humains, faire pour éviter cette souffrance.
Très bien. Alors, parfait. Simplement, moi, j'ai à me soucier maintenant de toutes ces technologies qu'on va utiliser pour essayer de doper nos performances. Vous évoquiez les drogues, hein, Philippe Cadic. Il y a peut-être un point dans Philippe Cadic, parce qu'il consommait effectivement des substances, mais vous dites, vous êtes fasciné par le nombre d'idées qu'il a, vous dites, comment est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'il faut se droguer pour faire ça? Il avait un double, sa sœur jumelle, qui est morte très tôt. Est-ce que c'est pas ça qui ouvre aussi quelque chose? Est-ce qu'il n'était pas double? Est-ce qu'il n'avait pas des idées pour deux? Parce qu'il y a la psychologie aussi qui dope.
Ça me donne envie de rebondir sur un élément.
Allons-y.
Mais je vais essayer de faire court parce qu'on est quatre.
Oui.
C'est qu'en effet, je pense, mais là on est encore dans le domaine de la science-fiction, qu'il avait deux personnalités en lui, une part de féminité. Et qu'un homme complet, c'est un homme qui cultive et entretient sa part de féminité, la connaît et l'entretient, mais en même temps la jugule, parce qu'il ne faut pas qu'il soit envahi non plus. Et qu'une femme complète est une femme qui a perçu sa part de masculinité. Et ayant perdu sa sœur très jeune, ayant vécu en quelque
sorte... Très jeune, c'est moins d'un an. Hein.
Avec son... Oui, moins d'un an, parce qu'elle n'était pas nourrie par des...
Et c'était sa jumelle.
Voilà, c'était sa jumelle.
Hétérozygote, mais jumelle.
Exact. Mais du coup, il a vécu comme si elle le hantait. Et... je crois qu'il y a un avenir pour les leaders hermaphrodites, c'est-à-dire D'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs, qu'on présente souvent le diable dans l'Antiquité, c'est-à-dire des gens qui ont perçu les deux faces, le côté yin et le côté yang. Et en effet, la chose fascinante chez Philippe Cadic, c'est qu'il me semble qu'il était une incarnation vivante du yin et du yang. Maintenant, il en souffrait. S'il a pris des drogues, c'est aussi parce que... D'abord, je pense parce que ça lui faisait plaisir, mais aussi parce qu'il cherchait des ouvertures nouvelles, et aussi parce qu'il y avait une souffrance de vie, une angoisse de vie qui était énorme, parce que précisément, il était vers la fin, trop empathique. C'est-à-dire qu'il percevait le monde tellement fort. Le problème de la sensibilité, c'est que plus on l'entretient, plus elle arrive. La sensibilité est une drogue. Et je vais faire un lien. Excusez-moi, je prends un petit virage, mais il y a un de ses derniers livres qui s'appelle Siva, commence par cette phrase. J'ai vu mon psychiatre et il m'a dit qu'il fallait que j'arrête la drogue et l'envie d'aider les autres. Je pense être capable d'arrêter la drogue, mais l'envie d'aider les autres, j'y arriverai jamais. Ça commence comme ça, et voilà le problème. C'est-à-dire que même l'empathie peut devenir une pathologie, même l'empathie peut faire du mal. C'est le stade au-dessus, encore un paradoxe. Du mal peut naître le bien, mais du bien peut naître le mal. Et quelqu'un qui s'occupe trop d'aider les autres, finalement, peut se voir détruire. On revient encore à la notion d'autonomie. C'est-à-dire que vouloir trop de bien aux autres, finalement, c'est une manière de s'oublier, voire de se détruire. Et là encore, c'est un thème de science-fiction, parce que c'est un paradoxe difficile à accepter. Mais par exemple, dans l'Empire des Anges, je montrais que Mère Teresa était quelqu'un finalement probablement très égoïste, en tout cas incapable de gérer des problèmes normaux. C'est pour ça qu'elle s'est précipitée dans « je sauve les autres » pour ne pas s'occuper de sa propre vie. Et on regarde ce qu'est sa vie, elle n'est pas terrible. Elle est devenue, nous on l'a sanctifiée parce qu'on a dit « oh regardez, elle sacrifie pour les autres ». Mais en fait, moi j'aimerais bien savoir exactement qu'est-ce qu'elle a construit, qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace, si ce n'est une sorte d'image d'œuvre caritative. Et je sais, j'ai beaucoup d'amis aussi qui font dans les œuvres caritatives parce qu'ils ont raté leur vie ici. Donc il faut remettre les choses en place. De l'empathie peut être, l'empathie peut être une drogue et l'empathie peut être un vice. En toute chose, il faut savoir raison garder.
Bon, alors de toute façon,
on fait le lien avec La Fontaine. Le bon sens est au milieu.
Très bien. En même temps, vous montrez qu'on a des tas de moyens de doper nos fonctionnements mentaux. Hein. Vous venez de le montrer. Alors je me tourne vers vous maintenant. Parce que vous êtes le cartographe du cerveau, vous essayez de faire une cartographie en temps réel. Au fond, vous essayez de baliser le terrain pour les gens qui vont mettre des pacemakers cérébraux et des trucs qui vont booster un peu nos fonctions. C'est comme ça que ça va se produire. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans les tuyaux derrière? Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit panorama? Bref, parce qu'on commence à se cheminer vers la fin.
Alors, tout petit panorama, ça va être difficile, mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'à 17h, je pense que je présente ici...
À 17h, au bar de voilà. Madame Spock, vous Exactement. Avez une heure avec lui, il va vous expliquer ça en long, en large, en travers, mais brièvement maintenant.
Donc voilà, donc les interfaces cerveau-machine, donc c'est pour répondre à votre question, on va essayer de les utiliser pour différentes applications. Alors les applications cliniques, donc on va aider des gens qui, par exemple, des amputés ou des gens qui ont des paralysies, ou des problèmes donc cliniques de ce genre-là,
mais aussi papillon, quoi, voilà
mais en plus des papillons pour les aider à communiquer.
Oui.
Il y a de nouvelles perspectives qui vont permettre d'améliorer des diagnostics, par exemple entre quelqu'un qui est diagnostiqué comme dans un état végétatif, donc qui sort du coma, mais encore dans un état végétatif, donc dit non conscient, par rapport à quelqu'un qui est dans l'état donc du scaphandre et papillon, donc l'octine qui ne peut conscient. Pas bouger mais qui est conscient. Donc avec des interfaces cerveau-machine appropriées, on va peut-être pouvoir détecter des signaux chez des gens qui sont conscients, qui sont là, mais dont tout le monde pense qu'ils sont dans un état végétatif et que ça sert à rien de s'occuper d'eux ou de communiquer avec eux. Donc ça, c'est par exemple une piste. Mais après, en plus de ça, il y a la piste ludique, il y a les jeux vidéo qui vont venir, qui vont
La commande sans télécommande, c'est pas le cerveau qui commande, hein. C'est un capteur du mouvement, donc il faut qu'on se trompe pas là.
Voilà.
C'est pas la pensée qui dirige le machin.
Oui, par contre, l'industrie du jeu s'oriente définitivement vers aussi le fait d'utiliser des capteurs qui vont mesurer l'activité cérébrale, donc des casques EEG.
Il y a le casque EPOC qui est créé par une entreprise qui est américano-australienne.
Il y en a pas mal qui émergent en ce moment.
On va même l'utiliser pour calmer les enfants hyperactifs.
Oui, alors il y a des études plus ou moins sérieuses et d'autres qui sont vraiment sérieuses là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention.
Oui.
Il y a un peu de tout là. Donc, comme dans les jeux vidéo, d'ailleurs, ils vous vendent un casque EEG pour soi-disant piloter le jeu avec l'activité de votre cerveau, et puis sur certains exemplaires on s'est rendu compte qu'en fait c'est uniquement des mouvements des yeux ou alors du front, des grimaces qui sont captées par les électrodes. Voilà. Et c'est pas du tout l'activité neuronale bien physiologique, elle vient des muscles donc du visage, mais pas du tout activité neuronale. Donc même là on est vraiment au début, il faut vraiment faire attention. Je pense qu'il y aura pas mal d'entreprises qui vont commencer à nous vendre un peu n'importe quoi pour
faire le distinguo entre ce qui est lié à des mouvements. Donc à des impulsions autres, des symptômes cérébraux autres, des activités cérébrales autres. Et puis il y a ce qui est lié à la pensée. Le logiciel OpenVibe, vous avez entendu parler, qui est développé par des gens de Rennes là.
Notre laboratoire est aussi partenaire,
et de Lyon. C'est des mouvements qui dirigent l'objet. et qui dirige l'ordinateur. C'est pas la pensée, le gars qui se concentre et qui...
Alors si, on peut piloter un ordinateur par l'imagerie motrice. Donc le fait, alors aujourd'hui on sait faire, on a des classifieurs qui vont aller enregistrer l'activité cérébrale et différencier l'imagerie motrice, par exemple, c'est, vous imaginez que vous bougez votre main droite, puis dans un autre
vous
cas,
imaginez,
votre...
Donc ça...
l'imagine, parce qu'on sait aujourd'hui que les réseaux cérébraux qui jouent un rôle dans l'imagination motrice, elles ont un grand overlap, donc elles sont très proches des réseaux sollicités dans le vrai exécution du mouvement, en fait. Donc si on connaît les réseaux qui jouent un rôle dans l'imagination motrice, donc l'imagerie motrice, on pourra demander à des personnes d'imaginer faire un mouvement.
C'est-à-dire que...
Capter cette activité-là, la transformer dans un mouvement d'un robot, par exemple.
Écoutez bien, c'est formidable ce que vous nous racontez. Le fait qu'on imagine un mouvement, ça produit le même résultat que le mouvement lui-même. C'est-à-dire que l'histoire de l'ombre de la caverne de Platon, c'est une réalité. C'est l'ombre qui commande le truc.
Alors
ça devient étonnant.
Quand je dis la même, c'est pas exactement la même.
Allez-y.
Quand vous imaginez...
Il faut qu'il l'ouvre là-bas, voilà.
Quand vous imaginez...
Ouvrez-lui le micro, s'il vous plaît, parce que là, on ne s'entend plus. Voilà, merci.
Quand vous imaginez une couleur, quand vous imaginez une couleur, la même chose se produit
voilà.
que lorsque vous la voyez. Mais il y a un point, c'est fantastique, il y a aujourd'hui, des gens peuvent en effet faire fonctionner un ordinateur par la manière dont ils ont appris à corréler la réponse de l'ordinateur à ce qu'ils imaginent. Mais ça marche chez les singes. Il y a des singes qui, lorsqu'on met des électrodes, sont capables d'ouvrir une porte simplement lorsqu'ils ont envie. Mais vous savez ce que c'est ? Lorsque vous faites le geste, c'est que l'imagination s'est continuée par un geste. Lorsque vous imaginez, c'est sans le geste.
C'est
voilà. pas la pensée. Quand vous dites la pensée, ce n'est pas la
pensée. C'est l'activité cérébrale.
Ce n'est pas la pensée qui est analysée. La pensée est par définition impalpable.
Alors c'est quoi ? C'est le...
Ce que vous pensez actuellement,
oui.
personne ne peut le détecter. Par contre, ce qui peut être détecté...
Alors moi, je peux vous dire ce que je détecte.
C'est l'expression... de votre visage,
oui.
ou c'est l'analyse des activités électriques de votre cerveau. C'est pas la pensée.
D'accord.
C'est un des états biologiques associés à votre pensée.
D'accord. Donc en fait, c'est le signal électrophysiologique qui déclenche l'affaire.
Oui, exactement.
Par le biais d'une électrode qui le capte, c'est ça ?
Exactement, oui.
Alors, vous pouvez voir sur le web, je sais pas si vous avez eu la curiosité, mais allez-y, c'est assez étonnant. Vous avez tapé multimodal sans E, Brain Orchestra. Le multimodal Brain Orchestra. Et il y a deux musiciens qui sont coiffés de casques avec les... Enfin, vous connaissez ça par cœur. Hein. Et ils ont un gros boîtier devant eux avec trois loupiottes allumées. Et ils regardent ça avec un air vraiment inspiré. Vous savez, un peu de veau sous la mer, là. Et ils font de la musique. Ça marche c'est un...
Alors,
un hook.
Bien sûr que ça marche. Enfin, moi, j'aime beaucoup la musique et différents types de musique. Ça, il faut encore une fois définir la musique aussi. Moduler l'activité de son cerveau par neurofeedback ou par biofeedback, par exemple, arriver à la moduler.
Alors, on a une mélodie.
Il suffit de sortir le signal, le transformer en signal audio et on peut faire de la musique. On peut faire de la musique très expérimentale, d'ailleurs, comme ça, et que ça peut plaire à certaines personnes et puis pas
alors,
du tout à d'autres.
C'est vrai que ça fait un peu honte, Marc Tonneau, hein, mais bon, c'est pas mal. Et cela dit, c'est fait au cours d'un truc très sérieux. C'était au cours d'une. C'est l'université Pompeu Fabra de Barcelone qui lance ça. Il y a un émotionnel conducteur qui est un logiciel, et puis c'était la conférence Science Beyond Fiction.
Tout ce que ça demande,
à Prague en avril 2009.
Oui, mais j'en doute pas que c'est sérieux. Tout ce que ça demande, c'est qu'on arrive à moduler de façon volontaire, au mieux possible, voire parfaitement, un signal qui est mesuré. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas aller placer une électrode sur la tête d'une personne et lui dire « allez, faites de la musique ». C'est que cette personne-là aura le temps qu'il faut pour s'entraîner à mieux comprendre comment la machine réagit à l'activité de son cerveau.
Il faut qu'elle ait de l'empathie avec la machine.
Et la machine, pareil, la sympathie avec la machine même, parce que la machine, elle va apprendre aussi à mieux classifier l'activité cérébrale. Donc, c'est ce qu'on appelle justement l'apprentissage machine plus apprentissage sujet. Et c'est dans les deux qu'on va arriver à avoir quelque chose de cohérent. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes aussi des interfaces cerveau-machine, parce que vous pouvez imaginer que un jour, vous arrivez avec un système qui ne marche pas du tout comme le fonctionnement du cerveau, mais si le sujet reste suffisamment longtemps branché sur ce système-là, par exemple, s'il n'a pas à manger, qu'il est obligé de passer par la machine pour se nourrir, il va apprendre le fonctionnement de la machine, son cerveau s'adaptera à la machine, et il arrivera au final de le faire. Et c'est ce qu'on appelle le operant conditioning. Ça a été fait sur des neurones chez le singe, par exemple. On peut apprendre à un de ces neurones de faire une chose qui n'est pas du tout naturelle.
C'est Pavlov encore, cette histoire. Mais là, du coup, c'est l'ordinateur qui dresse l'humain à... Ou c'est l'humain qui dresse l'ordinateur à...
C'est uniquement la plasticité cérébrale qui est mise en jeu.
D'accord.
L'avantage, hein, c'est tout ce qu'on peut en tirer quand on a une souffrance et un problème. L'inconvénient, il y a des expériences qui ont été faites. Il y a des chercheurs qui téléguident ce qu'ils appellent des rats robots. Parce qu'en fait, ils ont pris contrôle par des électrodes de leur centre moteur et ils les guident comme une voiture téléguidée.
D'accord.
Donc, on voit bien que dans l'interface homme-machine, les services rendus peuvent être extraordinaires quand la machine est au service de l'homme, mais l'homme peut aussi devenir au service de la machine. Et donc, c'est toujours ce problème de est-ce qu'on est téléguidé ou est-ce qu'on se sert de la machine ?
Alors, évidemment, il vaut mieux se servir de la machine que d'être l'esclave de la machine.
Mais quand vous êtes branché, vous ne savez jamais qui il y a de l'autre côté. D'accord. Donc, c'est toujours une question importante et intéressante.
Alors, messieurs les écrivains, Bernard Werber d'abord, Pierre Bordage ensuite, vous avez envie de... puisque vous aimez bien ne pas bosser, hein, parce que c'est là que vous bossez le mieux. Vous mettez devant votre ordinateur, mettez votre casque, vous le regardez avec empathie et il écrit ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas, d'ailleurs, au fond. Ça vous tente ou pas, ça? Le micro pour Bernard Werber, s'il vous plaît.
Ils se sont endormis.
Non, il s'est endormi, le micro. Voilà.
Oh. Allez, je vais prendre celui-là. On a qu'à tous se passer
le
micro.
Là, c'est très net. C'est la machine qui est en train d'essayer de mettre la main sur les intervenants.
On se passe tous le même, qu'on s'en est sûr qu'il est allumé.
Voilà.
Non. Parce que malgré tout, enfin, ça ne me tente pas, ça, parce que malgré tout, le petit ralentissement qui est causé par la mécanique des doigts sur le clavier participe à ne pas emballer trop mon cerveau. Il y a un moment, je pensais à la vitesse du processeur. Quand j'avais un 286, je tapais à la vitesse d'un 286 pour les vieux PC. Hein. Et après, chaque fois, ma vitesse de frappe s'adaptait à la vitesse d'apparition des lettres sur l'écran. Maintenant, c'est quasi immédiat. Donc, ce qui me ralentit, c'est le petit espace entre le doigt et la touche qui fait que malgré tout, bon, même si je tape très vite avec les 10 doigts, ça ralentit un tout petit peu ma pensée suffisamment pour que je puisse l'organiser. Sinon, elle serait emballée, elle irait trop vite. Tout à l'heure, on parlait de la drogue. C'est le danger de la drogue, c'est que ça donne des flashs dans lesquels il n'y a pas d'organisation et au bout d'un moment, la personne est entièrement dépassée par ses pensées.
Vous voulez garder le contrôle ? Quel que soit le moyen. Là, c'est le temps, la distance.
La meilleure image que j'ai, ça serait un cheval. Il faut tenir les rênes. Si vous lâchez les rênes de votre pensée, elle peut galoper dans n'importe quelle direction et se fourvoyer complètement. Il faut malgré tout avoir un cap, une direction où aller. Et après, sur cette direction, on peut surfer, on peut se laisser, on peut cavaler. Mais il est évident que la pensée directe sur l'écran, je pense que ça donnerait des livres moins intéressants. En tout cas, pour moi, je ne sais pas ce qu'en parle.
Au fond, j'ai l'impression qu'on peut reprendre ça dans un comité d'éthique. Hein,
je voulais juste rapporter un petit détail, une petite anecdote. Vous savez pourquoi les claviers sont AZERTYOP ?
Non. Pour donner le temps à Bernard Werber de réfléchir.
Non, je vous donne la réponse. Parce que quand ils sont aperçus que quand les gens tapaient à la machine, il y avait souvent, quand les secrétaires allaient vite, les petits marteaux se coinçaient les uns les autres.
Oui.
Donc ils ont cherché la manière de poser les lettres pour que ce soit le plus ralentissant possible. C'est pas fait pour accélérer, c'est fait pour ralentir. Donc les lettres les plus fréquentes, comme le A et le E dans la langue française, sont les lettres qu'on va atteindre avec le petit doigt à l'extrémité du clavier.
Mais c'est fini, il n'y a plus de mécanique derrière.
Oui, mais c'est resté, c'est toujours AZERTYOP et QWERTY. En anglais, les lettres les plus fréquentes...
QWERTY.
Voilà, c'est QWERTY, et après c'est AZERTYOP. Donc c'est fait pour nous ralentir, pour ralentir la pensée.
Bon, très bien. On peut reprendre ces formules-là. Prendre le temps.
Oui, et il y a d'ailleurs des écrivains qui dictent, et la parole va plus vite que taper. Mais je crois que ce que dit Bernard Werber est essentiel, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Ce que nous pouvons gagner en réflexion, en interaction avec les autres, ce n'est pas l'immédiateté. On pense à quelque chose, on peut le penser impulsivement. On a parlé des rêves. Les rêves, c'est très créatif parce que justement, c'est dans le désordre et c'est des impulsions. Mais quand on doit traduire ça dans une œuvre, dans une réflexion, il faut revenir dessus. Et donc, ce caractère rétrospectif, la relecture, le fait de réfléchir, le fait de s'interroger, le fait de se questionner, c'est sans doute ce qui joue un rôle essentiel dans notre capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse.
Alors, Pierre, pas envie de machine non plus, besoin d'un peu de
Moi, je dis que
machine à ralentir.
Le support importe peu. Ce qu'il faut, c'est réussir à traduire
Julien
la pensée.
Julien Gracq disait, j'ai besoin de prendre des comprimés de lenteur pour écrire un roman.
Chacun son truc.
Prendre des comprimés de lenteur.
Moi, j'ai commencé avec le crayon, j'ai poursuivi avec la machine à écrire, puis je suis arrivé à l'ordinateur. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un moyen pratique de traduire ce qui passe à l'intérieur. S'il y avait cet ordinateur avec la pensée qui s'inscrit directement, pourquoi pas, mais encore, on sera encore un petit peu plus...
Pour essayer, pour voir, pour rigoler, pour le fun.
De la machine. Mais pour moi, l'écriture est tout sauf une entreprise de conditionnement. Et j'entends énormément de certitudes. Et je trouve que c'est un des défauts majeurs de la science, c'est d'asséner des certitudes et de prendre le relais de l'Église ou des religions avec un aspect dogmatique fort. Or, tout est paradoxal en permanence, on le sait très bien avec la physique quantique, et donc les certitudes, c'est l'ennemi de l'homme, la certitude, et c'est une certitude.
Et l'ami de l'homme, c'est la curiosité. On termine ?
Juste pour finir, moi, quand j'écris, j'essaie de me débarrasser le plus possible de mes certitudes, parce que je pense que si c'est mon mental qui guide mon écriture... Ce que Bernard Schroy disait tout à l'heure en disant « Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ceci, cela ?» mon écriture va être complètement polluée. Donc ce qui m'intéresse, moi, quand j'écris, c'est d'essayer d'être le plus ou le moins mental possible. Donc de trouver un autre canal, une autre voie.
Merci Pierre Bordage. L'avantage des gens qui vont prendre le temps de réfléchir, d'agir, etc., c'est qu'on va peut-être pouvoir mesurer ce delta dont je parlais tout à l'heure. Karim Djerbi, on va pouvoir, oui, avec ouais, des gens qui vont prendre le temps, on va prendre le temps, on va pouvoir mesurer.
On pourra. Encore une fois, je pense que ce n'est pas dans le delta, c'est vraiment dans la synchronie, dans la symbiose de toutes les régions ensemble.
C'était juste pour vous rappeler que vous le retrouvez à 17h dans le bar de Madame Spock, c'est derrière, et puis que vous allez pouvoir maintenant suivre une rencontre avec Larry Niven, qui sera, excusez-moi, modérée par, il faut que je lise dans le pli, eh bien, Jérôme Vincent, c'est ça? Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Applaudissez-les. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup.